C'est la fin du week-end, on est dimanche, il est 20h et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming. Et tout de suite, c'est Museum Side en avant pour un tour du côté des musées.
On commence avec le mot du conte de Lautréamont. Bon, comme la rencontre fortuite d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table de dissection.
Museum Side.
Vous avez tenté de faire quelque chose qui n'est en aucune façon un palais, en aucune façon un lieu de décor, et disons-le tout de suite, en aucune façon un musée.
Museum Side, c'est l'émission de critique d'art de Radio Campus Paris.
Vassili Kandinsky est exposé au troisième étage à côté de Malevitch, comme il se doit.
Ceci n'est pas un musée.
Ah, donc si je tombe Malevitch, pour Kandinsky, je brûle.
On parlera d'exposition d'art.
Ce qui donne un art à une société, dit André Gide, c'est le besoin qu'elle en a, et non une compréhension plus ou moins grande.
On va se balader dans Paris, de musée en musée, toujours en compagnie d'un invité. On continue dans cette deuxième saison de vous emmener aux quatre coins de la capitale découvrir des expositions qui valent le coup d'œil. Et ce soir, on vous a concocté encore un beau programme. Alors pour notre troisième numéro, nous recevons Lucia Pezzapan, une des deux commissaires avec Camille Morino de l'exposition Women House, la maison selon elle, actuellement à la Monnaie de Paris jusqu'au 28 janvier 2018. En deuxième partie, nous parlerons évidemment de l'incontournable exposition sur Gauguin au Grand Palais, Gauguin l'alchimiste, qui y est présentée jusqu'au 22 janvier 2018. J'ai à mes côtés Charlotte, salut.
Salut.
Je vois également Marie-Hélène qui va nous parler de photos. Et quelle œuvre vas-tu ausculter ce soir ?
Je vais vous parler de l'exposition au jeu de paume de Albert Rengerpatsch.
Je vois encore Louis-Julien derrière la vitre, salut. Il fait un petit signe de la main, mais il ne parle pas. Et tout de suite, on commence par la chronique de Galadriel, qui évoque chaque mois un mouvement de l'histoire de l'art à travers une œuvre.
Museum Side.
Votre émission de critique d'exposition.
L'œuvre de ce soir est 40 Part Motet de Janet Cardiff, présentée en ce moment à la Fondation Louis Vuitton au sein de l'exposition Être moderne, le MoMA à Paris. Non pas que je ne souhaite vous présenter que des œuvres de cette exposition, mais y travaillant la plupart de mon temps, il m'est pour l'instant plus simple d'y rencontrer ces travailleurs de l'ombre des musées et d'y recueillir leurs expériences des œuvres. Il s'agit ce soir du témoignage de Margot, régisseuse d'exposition à la Fondation Louis Vuitton. Le régisseur est absolument fondamental à la bonne vie d'un musée. Il a la charge de toutes les tâches techniques qui entourent le bon déroulement d'une exposition, de son montage à son décrochage. Présents en permanence, les régisseurs sont extrêmement polyvalents, capables de s'adapter à toutes les contraintes induites par les œuvres. Et on sait qu'en art contemporain notamment, ça peut devenir vite très compliqué. Ainsi que celle de la scénographie. De la réparation multiple à l'électricité, au nettoyage, à tous les types de bricolage, ils doivent relever des défis en permanence et dans l'urgence. Ils sont un peu les héros cachés de nos musées. Artiste canadienne, Janet Cardiff conçoit des installations et promenades audiovisuelles immersives. The 40 Part Motet est une œuvre réalisée en 2001 pour laquelle elle a enregistré le chœur de la cathédrale de Salisbury chantant Spem in Allium, un motet de 40 voix indépendantes composé par Thomas Tallis vers 1570. Techniquement, l'artiste a équipé chaque chanteur d'un micro et a ainsi réussi à capter sa voix, isolée du reste du groupe. Visuellement, l'œuvre se compose de seulement 40 haut-parleurs disposés en ellipse dans une pièce, regroupés en 8 groupes de 5 enceintes qui composent 8 chœurs de 5 voix. Cela est rendu possible grâce à des technologies de captation de voix très poussées. Margot, notre régisseuse, avait étudié le travail de Janet Cardiff lors de ses études aux Beaux-Arts à travers des vidéos. Cette œuvre lui semble alors présenter peu d'intérêt. Un impact visuel très minimal et une jolie bande sonore, ça ne lui semble pas non plus digne de finir l'exposition MoMA quand elle voit sur les plans de montage que cette œuvre sera présentée dans la dernière salle. Mais finalement, elle a eu une très belle surprise. L'œuvre est arrivée dans de nombreuses caisses comprenant tous les composants audio, haut-parleurs, pieds, câbles, accompagnés d'une équipe technique du MoMA. L'installation a été lourde et compliquée avec beaucoup de branchements, de systèmes d'alimentation électrique à gérer pour faire fonctionner simultanément les 40 enceintes. Les réglages de son et d'installation dans l'espace ont été très méticuleux, orchestrés par l'artiste présente, afin que l'impact de son œuvre soit optimal. Et c'est justement au moment de la première activation de cette œuvre dans l'exposition que Margot a pu en saisir toute sa dimension. Le son émerge des haut-parleurs qui vous encerclent, tournent autour de vous, prend de l'ampleur, gagne tout l'espace. Le chant pénètre votre sensibilité, fait vibrer vos organes et vous fait dresser les poils sur les bras. Le son devient une sculpture presque palpable en trois dimensions. L'aspect visuel repose simplement sur les éléments techniques qui font fonctionner l'œuvre. Ce que la régie cherche habituellement à dissimuler est sublimé par le son et gagne une proximité très importante avec les visiteurs qui cherchent eux aussi à rentrer en contact avec l'œuvre, avec les chanteurs, en se rapprochant de chaque enceinte, de chaque voix, dont l'aura est très forte et dont la présence à quelques centimètres de votre oreille devient presque réelle. Une œuvre à vivre en son fort intérieur, dont Margot a la chance de profiter seule le matin quand elle va l'activer manuellement avant que la journée d'exposition ne commence. Une approche extrêmement privilégiée que peu de personnes ont l'occasion d'expérimenter et qui lui donne l'envie de se lever tous les jours, bien souvent à 5 heures du matin. C'est ce qui l'a fait rêver dans son métier et je dois dire que ça fait envie. Une œuvre qui fonctionne parfaitement avec peu de choses, une œuvre qui se ressent et ça fait du bien quand on parle d'art contemporain.
Et d'ailleurs, Marie-Hélène, je crois que c'était cette œuvre-là qui avait été ton coup de cœur quand on avait parlé de l'exposition.
Oui, tout à fait. Franchement, moi, j'avais été éblouie vraiment quand j'avais écouté. J'avais pas envie de partir de cette pièce. C'était vraiment très beau.
Donc ça marche aussi pour les spectateurs, comme ça marche pour les gens qui ont la chance de pouvoir travailler dedans.
Complètement. Et moi, j'en profite aussi très souvent.
T'as raison.
Je comprends pas ce que je vois.
Women House, la maison selon elle, présentée jusqu'au 28 janvier 2018 à la Monnaie de Paris, s'attaque à la question du genre, le genre féminin, et à celle d'un espace longtemps assimilé au féminin, le domestique. Ce soir, pour en parler avec nous, nous recevons Lucia Pesapan, une des deux commissaires de l'exposition, avec Camille Morino. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, votre exposition porte un titre qui fait référence à une autre exposition organisée à Chicago en 1972 par Myriam Shapiro et Judy Chicago. En quoi a-t-elle marqué un tournant dans l'histoire de l'art, cette exposition ?
L'exposition Women House que nous présenterons à la Monnaie de Paris est un hommage, en fait, à cette exposition historique qui a marqué vraiment un tournant très important dans l'art féministe qui s'appelait justement Women House. Cette exposition a été organisée par deux artistes féministes, Judy Chicago et Myriam Shapiro, qui ont été aussi les premières à ouvrir un cours d'art féministe au California Institute of the Arts à Los Angeles. Elles n'avaient pas de place où donner leur cours, donc elles décident d'occuper en fait une maison abandonnée à Los Angeles et d'organiser à la fin de cours de l'année une exposition dans cette maison. Et donc elles invitent les 25 étudiantes à occuper les différents espaces de la maison et à faire des performances ou des installations éphémères vraiment autour de la question de l'espace domestique. La chose intéressante, c'est que cette maison a été après détruite 4 semaines après l'ouverture, donc aussi toutes les œuvres montrées, les performances en fait ont été détruites avec la maison, donc on a des documentaires, des vidéos ou des photos, donc cette exposition nous a permis aussi de faire un peu vivre à nouveau cette installation, cette exposition vraiment importante dans l'art féministe, et c'était vraiment notre point de départ.
D'accord. Du coup, d'ailleurs, dans la première salle, vous montrez une vidéo qui montre justement les performances qu'il y a eu lors de cette exposition. Moi, je suis tombée sur la performance Bite and Con. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que vous pouvez parler un peu de cette performance et quelle a été la portée d'exposition à l'époque pour la lutte pour l'égalité des femmes et des hommes dans l'espace domestique, justement ?
Cette exposition, les artistes ont occupé l'espace d'une façon très ironique. Elles partagent tout un esprit mordant. En fait, les œuvres sont ironiques, font sourire. Donc, le but était de critiquer la société de l'époque, mais toujours avec un esprit vraiment... le but était celui de faire sourire, de faire participer aussi les personnes. Et
de dénoncer les tâches normalement assignées à la femme.
Bien évidemment. Alors... Ça, c'était vraiment le point de départ. Mais comment faire, il y a plusieurs façons de critiquer, de dénoncer. Donc il y avait en fait des épisodes de violence aussi, parfois des manifestations très très violentes dans la rue pendant ces mêmes années. Elle décide de critiquer d'une façon un peu différente, vraiment avec l'esprit, avec l'ironie, l'intelligence de certaines de ses performances. Donc vraiment, elles sont toutes caractérisées par cet esprit. Et dans l'exposition aussi, on a voulu un peu reprendre cette partie pris. Le début de l'exposition rend hommage à cette période et à ces artistes. Donc les premières salles commencent vraiment avec des artistes qui ont travaillé dans les années 60-70 et qui nous montrent de façon assez amusante comment elles ont un peu détourné toutes les tâches domestiques à leur façon. Donc on commence les premières salles vraiment avec ce même esprit qui était celui des années 72, au moins de l'exposition Women House des années 72, mais c'était une période très très importante, très très chargée au niveau politique, social, aux États-Unis, en Europe, c'était la période de toutes les batailles féministes.
Oui, parce que du coup, moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans le catalogue, Judy Chicago explique, il y a un extrait d'un entretien où elle dit que dans les années 60, on lui disait sans arrêt que l'on ne pouvait pas être femme et artiste à la fois. Du coup, est-ce que vous pensez que c'est encore difficile aujourd'hui de traiter de certains thèmes féminins dans l'art ?
C'est vrai, mais l'exposition justement montre comment les choses ont aussi changé. C'est-à-dire qu'effectivement, Judy Chicago, elle parlait vraiment des années 60, donc même avant toutes les batailles, les luttes féministes qui ont heureusement après donné de la place à la femme aussi dans l'espace public. Donc l'exposition montre le point de départ et heureusement comment aujourd'hui les artistes femmes ont occupé aussi l'espace public, mais avec des différences parce que les batailles féministes en Europe ne sont pas les mêmes en Chine, en Iran aujourd'hui, en Arabie, en Afrique du Sud. Donc on a essayé aussi d'inviter d'artistes de plusieurs pays, de plusieurs continents, plusieurs générations et dont elles nous parlent de la situation de leur pays, mais aussi par rapport à la contemporanéité vraiment d'aujourd'hui, quand même... avec l'actualité, on voit comment encore les batailles, l'égalité, la parité n'est pas vraiment acquise.
Alors, au début de l'exposition, les artistes explorent donc beaucoup le thème de l'enfermement, la maison vue comme une prison. Je pense à Lydia Schouten dans une performance que l'on voit en vidéo. Elle va même jusqu'à se frotter au barreau d'une cage enduite pastel gras pour dénoncer l'injonction faite aux femmes de se maquiller. Donc, l'espace domestique est un prétexte ici pour aborder d'autres problématiques féministes. On l'a vu. Et ensuite, on parle aussi de la chambre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des artistes, par exemple, pour explorer la chambre comme lieu d'enfermement ou lieu de revendication? Je pense à l'artiste Zanele Muoli, qui montre que la chambre devient un lieu de lutte pour des droits, ceux des homosexuels. Quelle est la genèse de cette série, par exemple? Enfin, de la photo qui fait partie d'une série de Zanele Muoli.
Oui, la photo de Zanele Muoli appartient à une série qu'elle a faite. Elle a pris en photo de couples lesbiennes en Afrique du Sud. Et du coup, ici, la maison, la chambre devient quelque chose de complètement différent par rapport aux artistes dont on parlait tout à l'heure. Donc, pour les artistes du début de l'exposition, la maison était une prison, est un lieu d'enfermement. Alors que pour d'autres artistes, dont on montre les œuvres dans une section, dans un chapitre plus tard dans l'exposition, dont Zanelle Muholi, la maison et la chambre devient un lieu de refuge, en fait, un lieu qui protège ou même un atelier de création. Et du coup, la maison pour Zanelle Muholi et ses couples de femmes devient le lieu où elles peuvent se montrer, parce qu'elles ne peuvent pas s'aimer en public, elles ne peuvent pas se montrer comme ça dans la rue. Mais du coup, la maison, les chambres, c'est vraiment leurs espaces où elles peuvent montrer ce qu'elles sont. Donc, c'est un chapitre qu'on a appelé « Une chambre à soi ». La référence est Virginia Woolf et l'essai qu'elle a écrit en 1929, « Une chambre à soi », où elle disait justement une femme pour créer a besoin de deux choses, avoir de l'argent à elle, parce qu'elle doit être d'une certaine manière indépendante, et un espace à elle qu'elle peut fermer à clé, et du coup laisser dehors les maris, l'enfant, tous les problèmes quotidiens, donc vraiment avoir une chambre à elle. Et on a des artistes comme Zanelle Muholi, mais aussi Francesca Woodman ou d'autres, qui en fait, pour elles, la maison devient le sujet de leurs œuvres.
Et pour arriver donc à cette chambre, on a donc la performance de Lydia Chouten, également une vidéo dans laquelle Monica Bonvicini détruit un mur. Est-ce qu'il faut d'abord détruire les murs de la maison pour ensuite accéder à autre chose?
La vidéo de Monica Bonvicini justement termine la partie plus dure où vraiment les artistes montrent la maison comme prison, et Monica Bonvicini nous donne un espoir, on nous montre d'autres façons justement de pouvoir se libérer. Donc on voit un bras qu'on devine être un bras de femme s'attaquer à un mur, donc essayer vraiment de l'abattre pour gagner cette liberté. Donc à la fois c'est un espoir, mais à la fois c'est aussi un vidéo qui veut nous dire si on veut, on a le pouvoir pour le faire. Parce qu'il faut juste le montrer et arriver à obtenir ce pouvoir.
Alors si on continue dans l'exposition, donc on monte au premier étage, on arrive à une section sur la maison de poupée. C'est tout un symbole. Qu'est-ce qu'elle représente du coup, la maison de poupée là, dans cette partie?
La maison des poupées est le jeu genré par excellence. Les filles jouent avec les poupées et les garçons jouent avec les voitures. Donc dans notre exposition, qui ne suit pas un ordre chronologique mais c'est plutôt thématique, c'était pour nous important de dédier vraiment un chapitre à la maison des poupées. La référence est le texte de Ibsen, une maison de poupées. À la fin, le personnage féminin, Nora, sort de la maison, claque la porte et cherche la liberté et accuse son mari de lui avoir créé en fait une maison de poupées où elle était prisonnière. Et du coup, la maison de poupées, ça nous intéresse pour voir comment certains artistes contemporains ont détourné vraiment la question, et aussi pour vraiment montrer comment la maison, dans le cadre du Women House, donc aussi femmes, espace domestique, mais aussi architecture, comment ce monde en miniature est abordé et traité par certains artistes femmes. Et dans l'exposition, on montre trois artistes, mais qui proposent des maisons de poupées complètement folles, complètement bizarres. Donc une maison de poupées devient en fait une maison de l'exorcisme.
Ah oui, elle est affreuse cette maison.
On ne voit pas effectivement les chambres ou la cuisine ou la table comme on s'imagine, mais on voit des scènes de violence, d'objets sexuels, donc vraiment pas par un public. Oui, tout à fait, ou peut-être on peut voir même Georges Bataille dedans, parce qu'il y a plein de symboles qui font des références à d'autres histoires, ou aussi des photos d'une photographe américaine, Laurie Simons, qui prend en photo sa propre maison de poupée. Elle choisit un format aussi très petit, donc il fait référence à ce monde miniaturisé aussi.
Et puis, il y a une maison de poupée, jeu plateau d'échecs.
Oui, une maison de poupée de Rachel Whitehead. C'est une œuvre assez atypique de sa carrière, mais elle a choisi le mobilier qui était dans la maison des poupées qui lui appartenait quand elle était petite, à la place du roi et de la reine. Elle a placé un placard, une cuisinière, et à la place de l'échiquier, elle a mis des morceaux de moquette. Donc assez marrante comme représentation de maison des poupées.
Alors, vous avez tenu également à montrer l'absence en consacrant une section à l'empreinte, à la trace. Sur quoi travaillent spécifiquement les artistes que vous avez présentés dans cette partie ?
Les artistes qu'on a présentés dans un chapitre qu'on a appelé « Traces », ce sont des artistes plus jeunes. Donc, on voulait voir comment les artistes d'aujourd'hui considéraient la maison. Comme je disais, le point de départ était un point de vue féministe, mais les soucis d'artistes plus jeunes, contemporaines, sont d'autres soucis. Donc, par exemple, une artiste iranienne, assez jeune, elle a à peu près 35 ans, qui s'appelle Nazgol Ansarina, regarde la ville de Téhéran aujourd'hui et elle remarque en fait que la vieille ville est en train d'être détruite pour faire de la place à des gros bâtiments. Donc les vieilles maisons basses en fait, où elle a vécu sont presque toutes détruites. Donc elle veut garder trace, elle veut garder un souvenir de ces lieux. Et notamment dans l'œuvre qu'on expose, elle fait le calque d'un mur d'une maison où elle avait vécu. Et elle l'expose. Donc pour elle, c'est une manière de garder un souvenir, de garder une trace d'une maison. Et du coup, de raconter en même temps ce qui se passe dans la ville de Téhéran aujourd'hui. Donc c'est une autre approche à la question domestique.
Et alors, par la suite, les artistes, on a l'impression, ne veulent plus subir leur espace, mais le construire. Et ça passe par la fabrication de prototypes. Je pense à Laure Tixier, qui propose des typologies en tissu de différentes maisons, dont la maison bretonne. Et également, est-ce que vous pouvez nous parler des travaux de ces artistes sur le logement, également sur l'expulsion, comme dans les photos de l'artiste sud-africaine Sue Williamson? C'est un très beau travail.
Les artistes qu'on a invités pour les chapitres qu'on a appelés Mobile Home, ce sont des artistes qui se questionnent en fait sur les grandes problématiques d'aujourd'hui, donc les guerres, les migrations, le problème des réfugiés. Ils essayent de trouver des solutions avec leur art, avec leur œuvre. Et donc je pense au travail de Lucie Horta par exemple, qui invente une tente mais qu'on peut porter sur nous-mêmes et en cas de besoin, donc déployer et se réfugier. Donc la question vraiment de l'habitat nomade aujourd'hui, d'autres façons de vivre, d'autres typologies d'habitat, dont le travail aussi de Laure Tixier qui dessine d'autres formes d'habitat. Et dans la même salle, le travail de Sue Williamson avec une série de photos. Au contraire, elle nous parle d'un petit pays de pêcheurs en Afrique. Et en fait, ce village est menacé d'expulsion. Ce village est menacé par l'armée, par une industrie à côté. En fait, l'air est très pollué, la mer aussi. Donc, elles sont forcées de quitter leur maison. Mais les femmes de ce village, en fait, lui ont raconté comment elles veulent rester dans leur terre, dans leur maison, même si les conditions de vie sont vraiment assez insalubres. C'est vraiment des conditions de vie pas bonnes pour rester, mais l'attachement à leur terre, à leur pays est plus fort. Donc dans la même salle, on voit des solutions pour vivre nomade et par contre d'autres communautés qui ne veulent pas quitter leur lieu et vraiment sont attachées à leurs racines et ils ont le droit de rester.
Alors, la dernière section boucle la boucle, en fait, parce que, pour moi, je l'ai vu comme ça. Vous proposez donc une association formelle entre le corps de la femme et l'architecture de la maison. Et ces femmes maisons, notamment celle de Louise Bourgeois, montrent à quel point la femme était dévorée par les tâches du foyer domestique. Et donc, la dernière œuvre, c'est une merveilleuse araignée de Louise Bourgeois. Pourquoi vous avez voulu clore par cette araignée? Et aussi, je lis aussi à la nana maison de Niki de Saint-Phalle que vous avez mise dans la cour.
Louise Bourgeois et Niki de Saint-Phalle sont les deux artistes qui nous ont fait commencer ce projet. Ce sont les deux artistes qui ont commencé aussi à travailler sur la thématique de la femme maison. Louise Bourgeois dans les années 40 même, et Niki de Saint-Phalle peu de temps après. Donc, avec, par contre, on a voulu les montrer ensemble parce que la conception qu'elles ont de cette femme maison est très différente. Pour Louise Bourgeois, elle commence dans les années 40, mais elle continue tout au long de sa vie. La maison restera toujours un poids à porter, un poids très très lourd que la femme est obligée à porter, et toujours cette difficulté d'avoir un travail d'artiste et un travail de mère. Et donc elle l'exprime avec des œuvres très dramatiques dans l'exposition. Et à côté, par contre, il y a les belles nanas maisons, les joyeuses nanas maisons de Niki de Saint-Phalle, qui arrivent un peu plus tard, en fait, dans les années 70, donc aussi après certaines batailles féministes et certains aussi droits que les femmes avaient acquis. Donc les femmes de Niki sont joyeuses, sont puissantes. Et donc dans la même salle, c'est intéressant de voir ces contrastes et de terminer. En fait, le parcours commence dans la cour d'honneur avec une très grande nana de Niki de Saint-Phalle où le public est invité à rentrer, à s'asseoir, à méditer. Et l'exposition dans les salles termine avec la grande araignée de Louise Bourgeois. Donc vraiment le début et la fin de l'exposition sont marqués par ces deux artistes très très importantes, et l'araignée de Louise Bourgeois, ça peut être considéré comme un espace à traverser parce qu'on peut marcher parmi ses pattes, donc une architecture qui peut nous protéger mais qui peut aussi nous étouffée, parce que l'araignée est aussi le symbole de la mer, donc quelqu'un, une personne qui bien évidemment nous protège, mais qui peut aussi nous limiter. Et c'était le cas dans les cas de Louise Bourgeois, les rapports avec sa propre mère, donc plein de différents symboles qui se mélangent autour de cet grand animal dans les salons historiques de la Monnaie de Paris.
Merci, Lucia Pesapal.
Merci à vous.
L'exposition Women House, la maison selon elle, est à voir jusqu'au 28 janvier 2018 à la Monnaie de Paris. Et tout de suite, on écoute La nuit américaine de l'Escope. c'était La Nuit américaine de l'Escope. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris sur le 93.9 FM et en streaming et vous écoutez Museum Side, votre émission de critique d'exposition.
Pas de photos, pas filmé, évitez de parler.
Museum Side. Gauguin l'alchimiste, au Grand Palais, propose jusqu'au 22 janvier 2018 une énième relecture de l'œuvre de cet artiste que nous avons tous appris à découvrir tout au long de notre vie. Faut, je pense avoir vécu sur une île pour ne pas avoir entendu parler de Gauguin. Alors quand on pense à Gauguin, on pense forcément pêle-mêle à sa dispute avec Van Gogh à Arles, au cours de laquelle ce dernier s'est coupé l'oreille, sa période dans les îles Marquises avec ses magnifiques toiles de Tahitienne, dont des portraits de ses multiples compagnes, souvent plus jeunes d'ailleurs, hein, je ne vais pas dire l'âge parce que c'est un peu scandaleux.
Pour cette restauration.
Voilà. Galadriel a lâché la bombe. Pour cette rétrospective, du coup, cette fois, les deux commissaires, Claire Bernardi, conservatrice de peinture, et Ophélie Ferlier-Bois, conservatrice en sculpture au musée d'Orsay, toutes les deux, ont choisi d'axer le propos sur la capacité de Gauguin à transformer les matériaux par une approche décloisonnée et expérimentale des disciplines. Alors, c'est vrai qu'on connaît mieux les peintures de Gauguin, mais il a beaucoup expérimenté les matériaux. Il a produit un nombre conséquent de céramiques, de sculptures sur bois, de gravures. Et l'exposition a choisi également de présenter 3 vidéos. Et moi, je trouve que c'est très réussi, qui présente dans un premier temps la technique de la céramique et du bois, dans un deuxième temps de la gravure et de l'estampe, et pour finir de la peinture. Donc on est assez subjugué, je trouve que ça fonctionne pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez avant qu'on fasse le tour des salles, les filles.
Ouais, moi j'ai vraiment aimé ces petites vidéos. Je trouve que ça faisait des petites respirations dans l'exposition qui est assez longue, et surtout de voir quelqu'un manipuler comme Gauguin l'aurait fait, moi ça me donnait envie, j'ai l'impression de regarder un tuto et j'avais trop envie de suivre les gestes, de faire la même chose, j'étais là devant, et je trouve que comme elles sont assez courtes les vidéos, oui, on peut facilement revenir les voir si on n'a pas eu l'occasion de la voir, on reste pas non plus trop longtemps devant, donc franchement c'était très bien pensé, moi j'ai vraiment aimé.
Je trouve qu'on rentre vraiment dans le concret, je sais pas ce que...
Oui,
vous
je
en
pense
pensez
que c'est important, notamment quand on parle de technique peut-être de l'estampe, qui n'est pas forcément bien connue du grand public, et puis même la technique de peinture, voir comment il appliquait ses toiles, la peinture sur les toiles d'ailleurs, sans préparation, hein, de manière très brute, très directe, ça permet d'approcher plus près l'œuvre de l'artiste de manière plus concrète.
Les rehauts de peinture, le fait qu'il décalquait finalement plusieurs fois... sur les
dessins, les transferts de dessins, par voilà, exemple.
Les transferts de dessins. Je trouve que ça, c'est intéressant.
Je ne connaissais pas du tout cette expliquer. Technique, d'ailleurs, de dessin sur plaque de verre, transféré sur papier.
Et en plusieurs fois, une fois pour certaines couleurs, une autre fois pour les autres couleurs, tout en laissant des parties en réserve. Intéressant. Donc du coup, plusieurs parties dans cette exposition. On va faire un peu le tour comme d'habitude. Et les deux premières parties, donc si je ne me trompe pas, c'est toi Marie-Hélène,
oui.
C'est plutôt tout ce qui est laboratoire des formes et ce qu'ils appellent donc le grand atelier.
Voilà, tout à fait. C'était la fabrique des images et donc ce grand atelier. Et je trouve que pour des premières salles, ça donnait vraiment le ton de l'exposition où on n'allait pas seulement découvrir le Gauguin peintre, mais plutôt le Gauguin sculpteur, graveur, que moi personnellement... je connaissais vraiment pas, en fait. J'ai appris beaucoup de choses. Et comme moi-même, j'avoue que je suis pas forcément très fan de son travail en tant que peintre, en tant que sculpteur, j'ai été vraiment impressionnée par sa technique, par sa volonté de creuser les médiums, de faire vraiment sa petite cuisine lui-même et de considérer l'œuvre en fait comme plutôt comme un processus de création plutôt qu'un résultat en fait. C'est vraiment cette idée de grand atelier, elle se retrouve beaucoup dans ces deux premières pièces.
Et c'est là, si je puis me permettre, où on se rend compte justement que Gauguin, il est peut-être plus graveur et sculpteur que peintre. Hein,
où,
finalement, les figures sur sa peinture, elles sont issues de cette technique de sculpture et de graveur.
Oui, tout à fait. En plus, on voit bien quand on regarde déjà les vases ou même les meubles, tous ces motifs qu'on retrouve dans sa peinture, on les retrouve également sur ses gravures. Donc c'est, je dirais, un travail de continuité et qui s'observe bien. Et vu comment l'exposition est construite dans ces deux premières salles au moins, je trouve qu'on arrive bien à faire le lien entre ces différentes techniques et de voir que toute sa carrière, ça a vraiment été un laboratoire, un essai de, pour trouver vraiment son style et pour trouver les techniques appropriées. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé toutes ces parties céramiques aussi. On voit qu'il s'est vraiment lancé dedans. Déjà, à la base, il s'est lancé pour gagner un peu d'argent. Et finalement, il a réussi à retourner et à faire ses propres œuvres en modelant lui-même, en oubliant les modèles que, par exemple, le céramiste Ernest Chaplet lui avait, pour qui il travaillait, ces modèles qu'il lui avait donnés. Nan Gauguin, lui, il fait tout lui-même. Il invente son terme, la sculpture céramique, où il prend tout en charge de A à Z. Et donc, on oublie cette fameuse rupture traditionnelle entre l'artisan et l'artiste. Lui, il s'occupe de tout. Et je trouvais que c'était vraiment très intéressant.
Et on a même l'impression parfois que certaines de ses peintures, c'est plus des croquis finalement préparatoires à ces céramiques qu'autre chose.
Oui, c'est vrai, parce que on retrouve souvent les mêmes motifs. Dans le grand atelier, on a beaucoup de variations sur le motif de la bretonne, par exemple, soit avec le corps entier de la bretonne, soit ses bras croisés, soit le fait qu'elle soit penchée. Quoi qu'il arrive, et même plus tard, dans ses tableaux ou ses gravures sur les femmes tahitiennes, on retrouve un peu ces mouvements de la femme et ce thème récurrent qui revient de la bretonne. Donc vraiment... En fait, on comprend que c'est tout un lien, du moins dans ces deux premières salles. Moi, j'ai vraiment compris ça comme ça, qu'il fallait comprendre l'œuvre dans sa globalité. Et lui-même, il parlait d'œuvre plutôt synthétique et il avait développé ce concept d'abstraction. C'est-à-dire qu'il... par exemple, il disait pour la nature, il fallait s'inspirer de la nature, mais pour créer quelque chose de plus abstrait, pour creuser plus avec le médium. Donc vraiment, on voit ce côté un peu carnet d'inspiration et ce côté d'élaboration de l'artiste dans son atelier qui se sert un peu de plusieurs petites choses pour se créer finalement un énorme vivier, un fond, un puissant fond, quoi.
Oui, ça reste quand même figuratif, mais ce que tu veux dire, c'est que aussi le...
Oui, le mot abstraction, c'est
plus
vraiment...
ce côté aussi assez décoratif du japonisme, oui. Où on enlève toute perspective et on arrive à des aplats assez
forts. Le motif devient extrêmement figuratif, tous les motifs de fleurs, notamment.
Oui, il ne faut pas comprendre... Oui, exactement. Il ne faut vraiment pas comprendre le mot abstraction comme l'art abstrait, admettons. C'est vraiment le fait de s'abstraire de quelque chose pour créer un art en général, en se servant de motifs par-ci, par-là. Voilà.
Et ce qui est très réussi aussi, c'est vraiment de voir... les différentes étapes, les céramiques qui lui servent d'inspiration. Je trouve qu'il y a vraiment un jeu de parallèles dans les vitrines qui est vraiment réussi. Et que ce soit aussi des céramiques de la Randin, que ce soit des objets plus de la tradition populaire, ça marche vraiment parce que du coup, on comprend tout ce qui...
Les tableaux de Pissarro, c'est là où... Ça, c'est intéressant, vraiment, c'est qu'on a ce parallèle et cet aller-retour qui est fait avec les objets qui l'ont inspiré et ils sont vraiment présents dans l'exposition. Et ça,
aussi.
Ça manque parfois beaucoup. Mais là, donc, ils sont présents. Voilà, il y a la peinture de Degas, les petites danseuses, pardon. Enfin, voilà, ça, c'est quelque chose, peut-être un point fort de l'expo.
Oui, la petite sculpture, là, je vois la petite parisienne à côté de la petite danseuse de Degas, c'est réussi. Du coup, Charlotte, toi, donc ensuite, c'est du sujet au symbole et l'imagier des tropiques. Alors ça, les tropiques, on en a forcément pas mal après, notamment de ses multiples compagnes.
Oui, et c'est surtout pour cela qu'on le connaît. Mais je vais revenir un petit peu justement sur cette troisième salle qui s'attarde beaucoup sur le symbolisme. Donc. Et donc Gauguin, comme l'a dit Marie-Hélène, de plus en plus, il délaisse ce qui relève vraiment de la description pour s'attacher à ce qui relève du signe. Donc ça correspond à une période 1886-89. Donc pour cela, il s'ouvre... effectivement à des domaines qui sont plus inhabituels comme l'art populaire. Donc toi tu as parlé de la Bretagne, mais il y a aussi le côté arlésien, le folklore arlésien. On retrouve aussi l'inspiration du côté de l'estampe japonaise, effectivement, à travers ce traitement des vagues qu'on voit, qu'il représente à travers sa série de femmes dans les vagues, justement. Et dans cette salle, on trouve tout d'abord des toiles naturalistes d'enfants nus. Donc des études réalisées avant cette période à Pont-Aven en Bretagne.
Pont-Aven, pardon.
Oui, pardon, j'ai voulu...
Mais en tant que Bretagne, je me sens obligée de te corriger.
Mais c'est raté.
Pont-Aven, oui.
Donc Pont-Aven, donc il reprend...
Il y a
donc...
des très bons gâteaux à Pont-Aven aussi.
Ah,
pardon, je
veux... Très intéressant pour
nos
auditeurs.
C'est pour ça qu'il y est allé.
Voilà.
Ça doit être une bonne... Bon, refermons cette petite parenthèse. Donc des toiles naturalistes d'enfants nus. Et justement, il va reprendre ce thème du baigneur ou de la baigneuse, mais d'une manière qui lui est propre. Il va décliner, donc il va s'opposer au canon habituel de la beauté en présentant par exemple des corps plus imposants avec des formes presque disgracieuses parfois. Et ça va devenir justement... C'est un peu sa spécialité, parce qu'à partir de là, il y a une série de baigneuses qu'on va retrouver qui va se décliner, de même que la femme dans les vagues. C'est ce que tu disais, Marie-Hélène, on va avoir comme ça des motifs qui vont être déclinés à travers un jeu de supports et de textures, donc effectivement gravure, céramique, peinture, etc. Et un thème qu'on retrouve également à travers la femme qu'on voit dans le tableau Misère humaine ou La Vendange. Donc on a une femme qui est prostrée, qui est assise, la tête dans les mains et qui semble désespérée, mélancolique. Et elle fait d'ailleurs écho à son Ève bretonne, qui la figure d'Ève en fait va se retrouver à diverses reprises, aussi bien à travers cette bretonne, cette arlésienne, et aussi la femme des tropiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette récurrence des motifs, des personnages, comme une obsession en fait, qui va marquer vraiment le style de Gauguin. Donc les tropiques, j'y viens. Pour petit rappel, Gauguin part pour les tropiques en 1895, mais il y était déjà allé 4 ans plus tôt. Et d'ailleurs, il va rédiger un récit autour de ce voyage qui s'intitule Noah Noah, pour ceux que ça intéresse. Donc là, ce qu'il recherche, c'est vraiment une nature féconde, abondante, préservée, libre, etc. Mais lors de son premier voyage, il va quand même être déçu parce qu'il se rend compte que la religion chrétienne qui a été amenée, enfin la colonisation tout simplement, a pris le pas sur les traditions et les mythes. Et lui, il va chercher dans ses toiles à représenter ce qui est encore préservé. Donc pour lui, et puis ce qui l'intéresse aussi, c'est que cet art océanien répond vraiment à un haut degré d'abstraction tel qu'on l'a défini plus tôt. Les symboles sont vraiment omniprésents. Donc il y a un vrai goût de l'allusion chez les Tahitiens. Donc par exemple, je pense à son tableau, je ne vais pas le prononcer en tahitien, mais on va le faire en français, « Et quoi, tu es jalouse ?»
Oui, parce que...
Ahaofei.
Merci. Parce que du coup, il faut dire qu'à cette période, il met tout le temps un titre tahitien derrière. Voilà,
voilà. Et puis... Pour ajouter du mystère. Tout à fait.
Il a quand même une vision assez folklorique, assez inventée, imaginée de ce peuple qui découvre, qui est assez étonnante, mais en même temps, en pleine colonisation, du coup, leur culture avait été complètement niée.
Oui, et puis Gauguin, il est toujours à la recherche de ses origines et du primitif. Hein. Même quand il est allé à Pont-Aven en Bretagne, ce qui lui a plu, c'est d'être dans une région un peu reculée, excusez-moi, mais à cette époque où la ville, l'urbanisation, l'industrialisation ne l'avait pas encore atteint comme ça avait atteint Paris, qu'il a fui, justement, donc... Et ça, c'est peut-être quelque chose qui vient dès sa plus tendre enfance, parce qu'il a quand même grandi au Pérou. Donc, ce goût du voyage, de l'exotisme et d'une nature et d'une société un peu primitive, voilà, peut remonter jusque-là.
Charlotte, continue.
Oui. Et je vais juste revenir un peu à mon petit tableau « Et quoi, tu es jalouse ?»
qui est très beau.
Ah oui,
qui est très connu aussi.
Oui, on peut même le voir, c'est l'affiche de l'exposition.
C'est celui qui a un fond rose, là, deux femmes devant et un fond
exactement,
rose.
Exactement.
C'est pas très clair, mais pour ceux qui n'ont pas vu le tableau.
On a deux femmes silencieuses qui sont assises, avec l'une qui a un genou replié avec le coude. Il me semble que son coude est posé... sur ce genou, ou alors sur l'autre jambe, je ne sais plus. Mais toujours est-il...
Et une des deux est une de ses compagnes, si je ne me trompe pas.
Alors pour ce tableau, je ne sais plus.
Je crois que celle de gauche,
c'est fort probable. Bon.
Et d'ailleurs, le « Et quoi, tu es jalouse ?» s'adresserait à sa femme danoise, restée en Europe avec les enfants.
Et bien justement, ce goût de l'allusion...
C'est quand même...
nous l'avons là.
Un peu scandaleux, il laisse sa femme derrière, il a passé sa vie à être avec ses autres compagnes plutôt qu'avec sa femme au Danemark. Mais c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire, mais qui est très intéressante, car on voit bien ce double sens du tableau. Parce que si on se trouve face à ce tableau pour la première fois, on voit deux femmes assises, silencieuses. On se dit, bon, voilà, on admire la beauté du tableau, etc. Mais grâce à cette inscription, il y a un double sens qui, donc peut-être effectivement, vis-à-vis, que ça fait écho à sa femme, on ne sait pas, mais le tableau prend vraiment une autre ampleur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de récurrent chez Gauguin. Et juste pour finir sur cette partie, je voudrais vous parler de la série des pastorales, donc des toiles, notamment les pastorales tahitiennes, et Areareia, qui sont vraiment des toiles...
Des grandes fresques.
Des fresques, oui, saisissantes par les aplats de couleurs très vifs. On a également, donc on a des groupes de femmes assises, un chien orange qui est récurrent et à l'arrière d'autres femmes qui accomplissent des danses rituelles. Donc ces œuvres sont marquées par le syncrétisme. Aussi, on peut à la fois avoir, donc il est mentionné dans l'exposition, qu'on peut songer à cette femme tahitienne en tant que Marie exotique, donc qui renverrait à la religion chrétienne. Donc effectivement, il y a cette ambivalence, ce syncrétisme entre la religion chrétienne et les croyances tahitiennes.
Galadriel, pour finir, du coup, tu as choisi les deux dernières salles.
Tout à fait, les deux dernières sections qui portent, qui ont le nom de Mythe et Réinvention, et enfin, En son décor. Et c'est là où l'exposition m'a gênée, c'est que j'ai vraiment eu le sentiment qu'elle s'essoufflait. C'est-à-dire que tout ce dont on a parlé, l'approche pluridisciplinaire de ces matériaux, la déclinaison des motifs, il l'a fait dans l'autocitation de manière assez extraordinaire, Gauguin entre sur différents médiums, différentes compositions... la synthèse entre la recherche du primitif, du sauvage polynésien et en même temps la société européenne, eh bien tout ça a déjà été traité et j'ai l'impression que c'est que un peu de la redite finalement dans cette dernière partie de l'exposition. Puisque dans Mythe et Réinvention, c'est de ça qu'il parle, c'est justement de la déception de Gauguin arrivé à Tahiti qui s'aperçoit que toute la Polynésie a déjà été occidentalisée. Et alors, il y a un tableau qui montre bien quand même cet état d'esprit. C'est... bon, pareil, je vais le faire en français plutôt tout de suite. Les aïeux de Teamana. Teamana,
On veut bien la version...
Merai metua no Teamana.
Voilà.
Excusez-moi pour mon accent, mais en fait Teamana c'est sa première compagne polynésienne, mais qui est ici vêtue d'une robe mission, donc en fait une robe occidentale qui la couvre des poignets aux chevilles, contrairement à toutes ces jeunes veinées qu'il aime bien peindre à moitié nue, n'est-ce pas? Donc oui. Habillée de cette manière occidentalisée, certainement pour aller à la messe justement, mais derrière elle est présentée dans un intérieur où on voit une écriture provenant de l'île de Pâques et une statuette représentant Ina, la déesse de la lune. Et Gauguin, ainsi, finalement, il évoque cette occidentalisation par la figure de cette jeune femme, mais en revenant sur les origines tahitiennes et en évoquant le mythe des origines, puisque selon ce mythe, les Tahitiens descendraient de l'union de Ina, cette déesse, et de Taharo, le dieu de la création. Donc voilà, on retrouve vraiment dans cette salle cette recherche, encore une fois, de Gauguin, qui essaye désespérément de retrouver cette idée d'une origine du monde, des sociétés, de l'humain. Et dans la toute dernière salle... Ce qui vient un petit peu peut-être conclure là quand même l'exposition, c'est que ça évoque la maison du jouir, cette maison atelier qui
fameuse.
S'est c'est ça, la maison atelier qui s'est installée dans les îles Marquises à partir de 1901. Donc il a créé une maison sur la typologie des maisons maoris et il avait encadré la porte par des bas-reliefs sculptés polychromes. Sur lesquels on retrouve de multiples figures qu'il avait déjà développées auparavant. Il y a notamment des têtes évoquant celles du dieu Taharoa, des femmes aux bras levés qui ont la forme d'Atlantes exotiques. Et il y a les deux maximes inventées par Gauguin, « Soyez heureuse, vous serez amoureuse » et « Soyez mystérieuse ». Donc on voit encore une fois qu'il s'adresse aux femmes, n'est-ce pas?
On ne sait pas trop quoi penser face à ces maximes.
Alors juste pour terminer, le dernier élément, c'est pour évoquer un peu l'intérieur de cette maison et de son atelier, on a une reproduction d'œuvres qu'on a trouvées chez lui, c'est-à-dire qu'il avait emmené beaucoup de reproductions d'œuvres de toutes les époques. On a un Hans Holbein, Degas, une frise grecque sculptée, une gravure japonaise, et voilà, on retrouve encore une idée de ce laboratoire des formes qu'il avait emmené avec lui pour développer son œuvre. Mais j'ai senti, voilà, comme je disais, un essoufflement en fait du propos de l'exposition.
Et tu penses que ça vient plutôt du propos de l'exposition que de l'œuvre de Gauguin, qui est aussi un peu faite comme ça, c'est finalement assez répétitive, assez.
Oui, alors c'est vrai que Gauguin a.
Enfin, bon, on va pas faire le procès de Gauguin, c'est pas ça. Mais après, c'est aussi dans sa démarche, c'est quand même assez redondant parce que c'est des thèmes qu'il explore.
Oui, voilà, c'est vrai que c'est des thèmes qu'il va. Il a quelques grands thèmes qu'il explore pendant toute sa vie. Mais l'autre critique que je pourrais faire, c'est qu'il y a beaucoup trop d'œuvres à mon sens. Il y a énormément de peintures, de gravures, de sculptures, de céramiques, d'œuvres Gauguin et d'autres artistes, mais il y en a énormément. Et je pense que de là vient aussi cet essoufflement, en fait. Si on avait peut-être réduit un peu le nombre des sculptures, on aurait eu peut-être la possibilité de découvrir encore des choses au fur et à mesure de l'exposition. Et en plus, il y a énormément de monde. Donc, la circulation et la vision des œuvres est assez compliquée.
Non, mais c'est vrai que c'est très dense. Et vers la fin, on a quand même aussi cette impression, t'as raison, cette impression d'un peu de saturation. Même si on prend le temps de tout voir, la fin est un peu plus compliquée. Mais moi, j'ai trouvé ça pas mal quand même, cette maquette numérique qui tourne pour montrer sa maison à la fin. Un petit gadget.
Un peu gadget,
bon, j'avoue, parce que... Les salles, bon, finalement, ça promettait beaucoup de choses et ça s'est révélé un peu moins...
Oui, c'était un peu un genre d'hologramme, finalement, pour montrer cette case maori en trois dimensions virtuelles, mais ça servait pas à grand-chose, j'ai trouvé, personnellement.
Mon œil a été attiré vers ça, et puis finalement, on a vite fait le tour, puisqu'elle oui, voilà, change pas beaucoup.
Ouais. C'est très court...
Eh bien, donc, si vous voulez vous immerger dans une ambiance tropicale, d'expérimentation tous azimuts, rendez-vous au Grand Palais jusqu'au 22 janvier 2018 pour aller voir la rétrospective Gauguin, l'alchimiste. Et tout de suite, on écoute Marie-Hélène qui nous parle de photos.
Instagrammeur, instagrammeuse, vous ne le savez peut-être pas, mais bien avant vous, un photographe maîtrisait déjà l'art de mettre en valeur les objets de son monde et de montrer l'esthétique des choses qui nous entourent au quotidien. Les filtres en moins et le talent de l'artiste en plus, bien sûr. À son époque, Albert Rengerpach comprenait déjà l'importance du médium photographique et sa richesse pour représenter le caractère unique de chaque chose. Il disait d'ailleurs qu'il est inconcevable d'imaginer la vie moderne sans la photographie. Au Jeu de Paume, une série appelée « La vision des choses » regroupe plusieurs photographies tirées de son livre de 1928, qui est d'ailleurs le plus célèbre, « Le monde est beau ». À travers son objectif, des fers à repasser parfaitement alignés s'apparentent à une forêt de sapins, les reflets de verre posés sur une table au soleil créent un jeu d'ombre et de perspective, des troncs d'arbres longilignes, la courbe des marches d'escalier ou encore des lignes électriques sont d'une beauté saisissante. Pour Rengerpach, la qualité de la photographie réside dans sa neutralité et son réalisme. À travers un sens de la composition unique, des plans serrés, détaillés et une attention particulière aux structures et aux formes, il donnait à voir, ou plutôt à contempler, l'immanence des choses, les choses de son univers. L'exposition « Les choses », justement, est à voir au Jeu de Paume jusqu'au 21 janvier.
Et comme chaque mois, c'est l'heure de notre tour de table des coups de cœur. Et on commence par qui ? Marie-Hélène.
Allez, alors moi je reste au Jeu de Paume pour l'exposition d'Ali Kazma qui s'appelle « Souterrain ». Donc c'est une exposition vidéo qui se trouve tout en haut du Jeu de Paume. Et en fait, elle regroupe le travail des 6 dernières années de l'artiste qui s'occupe entièrement de ses œuvres, donc du tournage, du montage et de l'articulation entre chaque vidéo pour chaque pièce. Donc il s'intéresse à l'activité humaine qui se déploie dans plusieurs champs, donc le champ économique, industriel, scientifique, médical, social ou artistique. Et il nous donne à voir en fait des choses que nous, on ne pourrait pas voir en temps normal. Donc par exemple, on va assister à l'opération du cerveau de quelqu'un. On va assister à un cours dans une morgue sur un cadavre d'étudiant en médecine. On va voir aussi le travail d'un tatoueur au ralenti, sa façon de remplir un tatouage.
une calligraphie arabe, tout l'art que c'est de faire de la calligraphie, en fait, ou par exemple encore des lieux comme ça dans le monde qu'on n'aurait pas l'occasion de voir. Donc voilà, c'est vraiment plein de petites vidéos sympathiques sur... sympathique et très esthétique aussi sur l'action humaine et toute la poésie qu'on peut avoir dans des gestes. Et je trouve que du coup, elle fait aussi bien écho à l'exposition de Renger Patch, puisque ça parle voilà, de ces petites choses qui sont esthétiques et qu'on ne prête pas forcément attention. Donc je vous conseille vivement cette petite expo de vidéo.
Donc au jeu de paume.
Toujours au jeu de paume.
Alors moi, mon coup de cœur, ce serait donc aux abattoirs à Toulouse. On ne parle pas beaucoup des abattoirs, donc c'est l'occasion de les mettre un peu en avant. Une expo sur la Colombie qui s'appelle Medellín, une histoire colombienne. Donc en fait, le musée de Medellín, le musée Antioquia de Medellín, a prêté des œuvres aux abattoirs. Ça a été un échange du directeur des abattoirs autour de l'histoire colombienne. Donc c'est une exposition présentée jusqu'au 21 janvier 2018 et donc qui mêle aussi bien des artistes anciens très connus comme Botero ou Béatrice González et des jeunes artistes de la scène colombienne qui ont tous un peu les mêmes préoccupations, hein, sans surprise, des œuvres traitent de la guerre civile en Colombie et des conséquences de la démilitarisation récente des FARC. Et donc mes coups de cœur, c'est principalement des vidéos qui sont très fortes. Je pense à une vidéo de Clemencia Echeverri qui présente donc un fleuve. En fait, c'est dans une salle et c'est un fleuve qui coule sur les deux murs. Et on entend au loin des gens qui crient. Et en fait, c'est un fleuve qui servait aussi à jeter des gens dedans, des cadavres. Et donc, parfois, on retrouvait des bouts de pieds, des bouts de mains. Donc, ça montre quand même un quotidien dans certaines villes, dans certains endroits de la Colombie très, très rude et très violent. Et je pense aussi à une autre vidéo qui fait parler en fait des anciens FARC et en fait où on voit que dans la guerre civile, bah il y a pas un bon camp, enfin il y avait pas un bon camp et un mauvais camp, mais beaucoup de gens ont été enrôlés d'un côté ou de l'autre, du côté des rebelles ou du côté de l'armée colombienne parce que leur mari s'est trouvé tué, leur femme et des gens de tout type, en fait, se sont retrouvés dans cette guerre. Donc, hyper intéressant. Je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil, donc à Toulouse, aux abattoirs. Dernier coup de cœur, Galadriel.
Oui, alors moi, je retourne au Petit Palais, où nous étions le mois dernier, pour l'exposition d'Andrés Serrano. Le Petit Palais essaye de renouveler un peu ses liens avec la création contemporaine en invitant depuis 3 ans un artiste contemporain à dialoguer avec ses collections permanentes. Et cette année, c'est Andrés Serrano, un artiste photographe assez iconoclaste, qui a présenté au sein des collections permanentes une 40aine de photographies. Des photographies traitant de sujets de société mis en scène, souvent qui traitent de la société américaine, mais pas que, et qui sont mis en parallèle avec les peintures du Petit Palais au sujet contemporain du 19e siècle cette fois-ci, et qui nous permet en fait de s'interroger sur le travail et l'impact des images par rapport aux événements contemporains. Et nous avons notamment une photographie d'Andrés Serrano qui est un portrait d'une réfugiée mis en parallèle de deux femmes bourgeoises de cette fin du 19e siècle. Donc une manière de redécouvrir autrement les œuvres du Petit Palais. Jusqu'au 14 janvier 2018.
Eh bien, Museum Side, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à notre invitée, Lucia Pesapan, commissaire de l'exposition Women House, la maison selon elle, présentée jusqu'au 28 janvier 2018 à la Monnaie de Paris. Merci à vous les filles, Galadriel, Charlotte et Marie-Hélène, et à notre réalisateur Louis-Julien. On vous retrouve le dimanche 7 janvier à 20h. Nous recevrons Raphaël Berthaud et Héloïse Corvéza, les commissaires de l'exposition Paysages français, une aventure photographique 1984-2017 à la BNF jusqu'au 4 février 2018. Et en deuxième partie, nous parlerons de Derain, 1904-1914, la décennie radicale, jusqu'au 29 janvier 2018 au Centre Pompidou. En attendant, joyeux Noël à tous et bonne fête de fin d'année. Restez avec nous, la soirée continue sur Radio Campus Paris.